Comment qu'on aurait du plaisir?
Écoute, écoute, écoute. Je me mets là-dessus en fin de semaine.
Kat, on s'entend que oui, la météo fait beaucoup, beaucoup
Ouais.
parler, mais ce qui se passe actuellement entre le Venezuela et les États-Unis, ça fait beaucoup parler. Et nous, la décision qu'on a prise, l'équipe de Dollar le matin, c'est de faire confiance à un expert. Fait que pour en parler davantage, laissez-moi vous présenter notre invité.
Bienvenue dans la casa de Dallaire. Un week-end 99.
Pour se faire une tête, pour essayer de comprendre davantage, tu sais, pour être capable d'échanger à machine à café avec un de tes chums, un de tes collègues, nous avons au téléphone avec nous autres Georges Mercier, analyste politique et doctorant à Sciences Po Paris. Se donne la peine de nous rejoindre ce matin. Bon matin, Georges.
Bonjour, bon matin tout le monde.
Comment allez-vous, Georges?
Ben, très bien, en tout cas mieux que Nicolas Maduro, qui, lui, a eu un très mauvais réveil samedi dernier.
Oui, mais au moins, il y a eu une bouteille d'eau.
Au moins.
Georges, sérieux, on rit, mais on rit bien, mais c'est pas drôle du tout. En fait, le but des prochaines minutes et pourquoi on vous a invité comme expert, c'est vraiment de se faire une tête pour essayer de comprendre. La première question que j'aurais tendance à poser, c'est qu'est-ce qui explique l'escalade? Comment on peut comprendre que les États-Unis s'en prennent directement au Venezuela? Qu'est-ce qui a causé cette situation-là?
Écoutez, je pourrais être très honnête, je pense qu'on va mieux le savoir dans 10 ans. Parce que la Maison-Blanche actuelle n'est pas très, très claire sur ses motifs. Ce qui est certain, premier élément, c'est que ça fait plusieurs années que plusieurs administrations américaines différentes en ont contre le régime au Venezuela. Il faut comprendre qu'en 1999, on a Hugo Chavez qui est élu, qui mène une politique nationaliste, socialiste, qui s'oppose aux intérêts américains. Ajoutez à ça le fait que les Américains, la Maison-Blanche, considèrent que Nicolas Maduro était présumément à la tête d'un cartel qui enverrait de la drogue aux États-Unis. Donc, on dit que c'est un homme qu'il fallait arrêter parce qu'il représentait une menace. Et troisième élément, c'est peut-être l'élément le plus cynique, mais peut-être aussi le plus vrai, le Venezuela, c'est le pays du monde qui a les plus grandes réserves de pétrole prouvées sur la planète. Ce sont des énergies que les Américains et les compagnies américaines convoite. Donc, il y a un intérêt là, objectif, pour dire les choses comme ça, pour les États-Unis de mieux contrôler le Venezuela ou de pouvoir avoir là-bas un gouvernement qui pourrait plus se plier à leurs intérêts. Mais là, la grande question, c'est pourquoi s'être rendu jusque-là? Et peut-être que la seule bonne réponse, c'est que la Maison-Blanche, sous Trump, avait tout essayé pour ne pas entrer militairement dans le pays, pour ne pas capturer Maduro, et lui-même refusait. On a frappé des bateaux qui présumément envoyaient de la drogue aux États-Unis. On a saisi des pétroliers. Et malgré tout, Nicolas Maduro refusait de quitter le pouvoir, alors qu'on lui aurait peut-être offert de pouvoir le faire. Donc la Maison-Blanche s'est résolue à une opération militaire pour aller le chercher, parce que tout le reste n'avait pas fonctionné, finalement.
OK. J'ai la façon de faire, là. Tu sais, on se lève un matin. Ah! Eh bien, les États-Unis ont attrapé, arrêté le dirigeant d'un autre pays. Ma question, c'est est-ce que les États-Unis ont le droit d'agir ou d'intervenir de cette façon-là?
Écoutez, c'est toute une question. Puis là, je pense qu'il faut distinguer ici le droit national, donc le droit américain, puis le droit international. Le droit international, c'est les normes puis les règles qui sont censées régir les relations entre les États. Puis au cœur de ce droit-là, il y a une norme qui est très importante, c'est le respect de la souveraineté de l'État. C'est-à-dire qu'un autre pays ne peut pas décider de rentrer dans un pays s'il n'a pas de motif légitime. Le principal motif légitime, c'est quoi? C'est la légitime défense s'il y a une menace imminente. Mm-hmm. Donc un pays ne peut pas juste s'ingérer dans d'autres frontières pour faire ce qu'il y veut. Mais là, le gros problème ici, c'est qu'il y a un précédent. Ce que les Américains ont fait avec Nicolas Maduro, c'est en 1989, George H.W. Bush, le père de Bush-fils, décide d'envoyer l'armée américaine au Panama pour capturer un dictateur là-bas qui s'appelait Manuel Noriega. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont fait pour les mêmes raisons que Nicolas Maduro. Ils ne considéraient pas que Noriega, c'était le leader légitime du Panama, et il avait été mis en accusation aux États-Unis, comme Maduro, pour des charges de trafic de drogue et de choses comme ça. Donc les États-Unis ont déjà fait ce qu'ils viennent de faire avec Nicolas Maduro, et je pense que ce qui est important pour nos auditeurs de comprendre, c'est que on ne sait pas encore tout à fait c'est quoi le but des Américains au Venezuela. Parce que là, on a eu une opération militaire qui est extrêmement impressionnante. On dirait que ça sort d'un film d'action.
Absolument.
On est allé chercher un leader politique. Mais on s'est arrêté là. C'est-à-dire que les Américains ont décapité le régime vénézuélien. Ils ont saisi Maduro et sa femme. Mais tout le reste du parti au pouvoir au Venezuela reste au pouvoir. C'est la vice-présidente qui avait été nommée par Maduro, qui est aujourd'hui présidente, le ministre des Armées, le ministre de l'Intérieur. Tous ces gens-là restent là. Donc, si la Maison-Blanche dit, écoutez, ici, il dit à des juges américains. Tout ce qu'on a fait, nous, c'est une grosse opération de police, bien impressionnante, oui, mais une opération de police, c'est pas la même chose que s'ils ont dit on était faire un changement de régime et on veut contrôler un autre pays.
Je comprends, je comprends. Au micro de Dollars le matin, c'est Georges Mercier, qui est analyste politique et est doctorant à Sciences Po Paris. J'aurais tendance, c'est peut-être mon côté animateur de radio, là, puis qui aime prendre soin des gens, là, mais suite à l'intervention américaine, les gens, les Vénézuéliens sur le terrain, là, les habitants, c'est-tu une bonne nouvelle, ce qui se passe? Est-ce que c'est pour le meilleur ou pour le pire, la situation actuelle?
Ben, en tout cas, il faut comprendre que le régime de Nicolas Maduro est un régime extrêmement répressif, que la situation économique va très mal au Venezuela, que les Vénézuéliens, en général, souffrent. Il y aurait jusqu'à 8 millions de personnes qui ont fui le pays. Et ce qu'on a remarqué au lendemain de cette arrestation-là, c'est que beaucoup de Vénézuéliens partout dans le monde se réjouissaient. À Montréal, on a eu des célébrations, par exemple, de gens qui disaient « enfin, le dictateur est parti ». Mais la vraie question ici, c'est si la Maison-Blanche se contente de décapiter le régime, se contente de Maduro et de garder les autres personnes de ce régime-là au pouvoir, mais dans les faits, ça ne change pas grand-chose pour les Vénézuéliens. Et d'ailleurs, on notera que la Maison-Blanche ne parle pas d'organiser des élections bientôt et même, ça c'est intéressant, ne veut pas installer au pouvoir Mme Machado, la prix Nobel de la paix de cette année, qui serait en quelque sorte la leader de l'opposition légitime. Donc si les ambitions américaines, c'est simplement de remplacer une élite au Venezuela par une autre, par une nouvelle élite qui pourrait être plus, disons, réceptive à leurs demandes, notamment aux intérêts pétroliers américains, bien, la situation sur le terrain pour les Vénézuéliens, elle ne va pas s'améliorer et la satisfaction qu'ont pu ressentir les membres de la diaspora, elle va être de très courte durée parce que finalement, c'est purement une logique cynique qui est intéressée. On remplace un dictateur par un autre, mais on ne rétablit certainement pas pour l'instant la démocratie dans ce pays-là qui en a grandement besoin.
Nous autres, on regarde nos voisins, là, les Américains intervenir, puis moi, la question, je me vois mal pas poser cette question-là. Y a-t-il une façon de rétablir la situation ou éviter l'escalade entre les gens, les pays plus du côté du Venezuela ou plus du côté des États-Unis? Y a-t-il une façon de faire pour éviter l'escalade, pour essayer de rétablir la situation?
Ben, je pense que ce qu'il faut comprendre en ce moment, c'est que les États-Unis sont le pays le plus puissant de la planète, militairement et économiquement. Puis les pays les plus puissants dans notre système international s'octroient des droits et des licences, se permettent de faire des choses que les autres pays ne peuvent pas faire. Et le gros problème pour les pays d'Amérique latine, je pense à la Colombie, je pense au Mexique, c'est que les États-Unis considèrent que l'Amérique du Sud, c'est leur carré de sable, c'est leur bac à sable, c'est une région du monde où c'est eux qui devraient avoir le dernier mot. À moins que les pays d'Amérique latine deviennent du jour au lendemain beaucoup, beaucoup plus puissants ou qu'ils ne s'allient avec d'autres pays forts comme la Russie ou la Chine, ça va être très difficile pour eux de résister aux interventions américaines. Ce qui peut peut-être les aider, c'est que la Maison-Blanche actuelle, elle n'aime pas des opérations à longue haleine. Elle n'aime pas prendre, disons, s'ingérer trop longtemps. Ils veulent faire des frappes rapides, précises, puis se retirer. Donc, si c'est seulement à ça qu'on doit s'attendre, ben, c'est un peu moins pire qu'une invasion terrestre ou d'autres formes de conflits plus prolongés.
Colin, hein? En peu de temps, moi... Oui, Kat, oui,
ben,
Kat,
moi, vas-y. J'aurais peut-être une question, si on dévie un petit peu du Venezuela dans les déclarations qui ont été faites hier, notamment par Donald Trump, on dirait que là, sa prochaine cible, pas pour les mêmes raisons, c'est le Danemark, le Groenland.
Le Groenland.
Puis là, il dit, ça nous le prend, on en a besoin pour... stratégiquement, on en a besoin, we need it, we need it. Là, quand on voit une démonstration de force comme ce qui s'est passé au Venezuela, si moi, je suis Groenland, je ne traite pas pantoute aujourd'hui.
Ben non.
Là.
Ben, je pense que vous faites bien de parler de démonstration de force, parce qu'il ne faut pas oublier que cette opération-là, samedi, dans la nuit de vendredi à samedi, c'est aussi un message qui est envoyé à tous les autres pays de la planète, qui veut dire, regardez comme l'armée américaine, encore aujourd'hui, malgré l'Irak, malgré le fiasco en Afghanistan, regardez comme on est fort. Donc, quand je vous parle, écoutez-moi. Le problème du Groenland, c'est que ça demeure une île qui appartient au Danemark, qui est un allié de l'OTAN des États-Unis, et les États-Unis pourraient faire là-bas à peu près tout ce qu'ils veulent sans avoir à annexer le Groenland. Donc, je pense que là, on est encore au niveau des discours, parce que la Maison-Blanche parle beaucoup, 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 mais ce serait surprenant qu'on ait une vraie annexion d'une île alliée aux États-Unis. Okay.
C'est des minutes très intéressantes. C'était le but de l'exercice, c'était le but de se faire une tête, de mieux comprendre cette situation. Au micro de Dollars le matin, ce matin, Georges Mercier est analyste politique et doctorant à Sciences Po Paris. C'est des belles minutes. Ça va être dans la section réécoutée de notre émission. Merci beaucoup, Georges. Puis on garde malheureusement ton numéro de téléphone.
Merci à vous. Bonne journée.
OK. Salut. Merci beaucoup. C'est ça que je voulais. C'est en plein ça que je voulais. Je voulais juste parler, jaser pour que le commun des mortels ou comme Joe qui est déconnecté de tout, qu'on, en peu de temps, qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe actuellement. Il est à 7h33 du matin, on est dans l'heure le matin, puis au retour, c'est une maudite belle nouveauté de Milky Chance. Le titre, c'est Camouflage, et ça joue au retour.